Bonjour Mathieu, merci de nous rejoindre pour un nouveau podcast sur Cryptost. Alors Mathieu, tu es avocat et en même temps spécialisé un petit peu sur les sujets de la blockchain. Et justement, on va profiter de ton expertise aujourd'hui pour discuter d'un sujet d'actualité. On va parler de cette fameuse loi Sorare, loi qui a été grossièrement appelée comme ça, qui vise très généralement à encadrer tout ce qui est jeu aux alentours des crypto-monnaies, des NFT. Et on va essayer de comprendre un petit peu ensemble quel impact aura cette loi sur le développement de l'industrie des jeux Web3. Avant qu'on parle de tous ces sujets, c'est la coutume un petit peu dans ces podcasts sur Cryptost, j'aimerais bien que tu te présentes, tu nous expliques ce que tu fais concrètement et comment est-ce que tu as découvert aussi l'industrie des cryptos.
Merci pour l'invitation. Je suis avocat, comme tu disais. Hein, je travaille essentiellement sur les questions de crypto, blockchain et aussi d'IA depuis un certain temps. Et par ailleurs, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8, où je suis dans un laboratoire plutôt avec des informaticiens, des ergonomes, donc il y a une vraie diversité. C'est très riche pour moi aussi de voir le travail d'autres disciplines. Et pour ma part, j'ai fait un doctorat en propriété intellectuelle, donc c'est vraiment un champ que je connais bien, que j'affectionne beaucoup. Et j'ai travaillé aussi beaucoup sur des questions de droit financier, avec vraiment la focale blockchain. C'est vraiment la blockchain qui m'a redonné le goût en fait, du droit financier, et je trouve cette pratique super intéressante. Et là, c'est vrai qu'on voit encore de nouvelles choses apparaître avec justement ces jeux NUM, hein, ces jeux avec des objets numériques monétisables. Enfin, c'est le terme en tout cas qui a été choisi par l'État pour parler en fait, des NFT de play to earn, en fait, hein, parce que c'est un peu nous comme ça qu'on l'appelait dans la pratique. Hein. Et donc ça rajoute, on va dire, une couche en droit de la consommation. Il y a une question aussi assez forte autour de la manière dont ça va être régulé. Bon, on ne sait pas encore quelle autorité va avoir la main sur ça. Et il y a les questions de jeux en ligne qui apparaissent avec ça, avec les jeux de hasard, et aussi les questions plus, on va dire, classiques en droit des contrats ou en approche IP de jeux vidéo. Et donc on ne sait pas exactement encore où positionner ça. Et c'est un petit peu la démarche aujourd'hui gouvernementale d'essayer de trouver un équilibre entre les monopoles préexistants, la dynamique des jeux vidéo en général, celle de ces jeux vidéo particuliers, avec quand même quelques grands acteurs en France qui ont fait de très belles levées de fonds et qui sont pionniers. Et à côté de ça, on a aussi la question du consommateur, de l'addiction potentielle liée aux jeux vidéo, qu'on connaît bien déjà par ailleurs et qu'on connaît aussi tout particulièrement dans le domaine des jeux d'argent, avec bah, du coup cet écosystème et cet équilibre à trouver. Voilà.
Tu l'as particulièrement bien introduit, donc les jeux Web3 commencent vraiment à se démocratiser. Il y a des questions qui se posent, et notamment donc, du côté des régulateurs. Pour placer un petit peu le contexte, ce régime, Jonum, comme tu l'as expliqué, il s'inscrit plus largement dans le cadre d'un projet de loi qui a été adopté le 5 juillet par le Sénat, le projet de loi SREN, et donc qui est actuellement d'ailleurs discuté à l'Assemblée nationale. Et donc il y a dans ce projet de loi toute une partie, tout un régime qui vise justement à encadrer ces jeux Web3. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que dans ce projet de loi SRN qui est censé encadrer ce qui se passe dans le monde du numérique finalement, on est arrivé jusqu'au Web3 et au NFT?
C'est une vraie question. Je pense qu'il y a eu quand même un vrai intérêt pour la question. Et cette loi, en tout cas, a pour objectif de travailler sur la sécurisation en fait, de l'espace numérique. Donc effectivement, tout ce qui relève un peu du pari en ligne, c'est une vraie question qu'on avait déjà au moment, on va dire, de la réduction du monopole dans l'espace numérique. Et c'est pour ça qu'on a des structures où on peut parier maintenant, faire du pari sportif, faire du poker en ligne. Ça, c'était déjà une question qu'on avait il y a une bonne dizaine d'années. Et là, on voit qu'elle est élargie, retravaillée. Avec bah, cette question de NFT, qui sont finalement pas complètement de l'argent, c'est pas des monnaies, hein, c'est pas des jeux d'argent en tant que tel, mais on a quand même la possibilité de les revendre, ces NFT. Ils sont uniques, on peut les revendre, souvent on va aussi obtenir des crypto-actifs, hein. Ça peut être des jetons d'écosystème, on se pose la question de savoir si c'est assimilable un peu à une monnaie ou pas. Comment faire avec ça. Et donc c'est un peu dans ce contexte aussi de volonté de protéger, je pense, le consommateur qu'il y a eu cette démarche gouvernementale et aussi de stimuler, donc c'est aussi présenté comme ça, de stimuler en clarifiant le cadre réglementaire l'écosystème français en matière de Web3 dans le jeu. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même c'était assez fertile au niveau entrepreneurial à ce niveau-là et je pense que il y a quand même eu un certain nombre de difficultés parfois pour des entreprises françaises dans la tech à se déployer. et la volonté est souvent de faire ça. Il y a eu ça un petit peu aussi sur les ICO. Les ICO étaient faites, le cadre réglementaire français, qui était un des premiers, hein, par exemple avec le Visa MF, c'était la volonté aussi de sécuriser les acteurs quand ils font ce type de levée de fonds. On s'est aperçu finalement que ce régime n'a pas forcément fonctionné, hein. Il y a eu quatre ICO avec Visa MF et clairement c'était soit des échecs, soit un dévoiement de ce qui était pensé au départ. Bon, ok. Mais la régulation, c'est, on va dire, une de nos grandes spécialités en France, hein, et en Europe aussi. On voit ça aussi avec MiCA, hein, qui est un règlement européen qui s'appuie aussi beaucoup sur des travaux français, notamment le régime SAN, etc. Bon, effectivement, c'est important, moi, je pense, de sécuriser le consommateur, mais il faut voir aussi les intérêts des acteurs et laisser aussi une vraie place à l'innovation. Et souvent, quand on réglemente, on est un petit peu toujours derrière les usages. Et les usages sont, enfin, quand la réglementation entre en vigueur, les usages qu'elle est censée couvrir sont déjà désuets. Et ça, ça peut être quand même assez problématique. Et ça crée des contraintes qui sont datées pour des usages nouveaux. Et ça ne trouve plus vraiment une application pertinente. Et en plus, on a un socle quand même juridique qui est déjà assez dense. On peut, on va dire, extrapoler aussi des régimes juridiques. Il y a des choses qui se font en droit de la consommation qui permettent, à mon sens, hein, d'encadrer déjà ce qui est appelé aujourd'hui les jeunes.
Donc du coup, moi ce que je remarque quand j'écoute un peu ce que tu dis, c'est que finalement donc on a déjà quand même, selon toi, un socle réglementaire qui pourrait globalement essayer d'encadrer ce qui se passe dans les jeux Web3. Néanmoins, dans la discussion qui a amené la création de ce régime Jeunum, on s'est dit non, on ne veut pas que les jeux Web3 soient considérés comme des jeux d'argent ou des jeux de hasard, ce qui est d'ailleurs à mon sens plutôt une bonne nouvelle. Pour plusieurs raisons, notamment, j'aimerais que tu te rappelles un petit peu ce qui définit, finalement, quels sont les trois socles qui définissent des jeux de hasard et des jeux d'argent, et pourquoi, et tu l'as évoqué d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, pourquoi un jeu Web3 n'en fait pas partie, en fait, et ne pourrait pas être encadré comme ce genre de jeu-là.
Bah, disons que l'élément essentiel, hein, c'est le sacrifice financier, hein. C'est vraiment ça qui est pris comme élément essentiel pour qualifier un jeu de jeu d'argent. Pour autant, il y a eu un assouplissement à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même des loteries publicitaires ou qui permettent finalement, ou des jeux concours, hein, dans lesquels on va pouvoir, en tant que marque, proposer un jeu à sa communauté d'acquéreurs de biens. Hein. C'est typiquement le cas de McDonald's où on a les petits tickets Monopoly. Hein. On va acheter un Coca et on aura un petit ticket à enlever et à partir de ça, on a un jeu dans lequel on peut gagner, je sais pas, une voiture de luxe ou je ne sais quoi. Et là, c'est réglementé, mais c'est encadré par le droit de la consommation et ça s'est vraiment assoupli les 10 dernières années en France. Hein. On avait un régime qui était très strict, hein, par rapport à ce qui se faisait au niveau européen et donc il y a eu une harmonisation à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on a la possibilité même de ne pas proposer des jeux qui sont, on va dire, sans obligation d'achat. Enfin, disons que le faisceau d'indices, les critères sont assouplis. On n'a plus besoin nécessairement, en fait, d'aller déposer le jeu concours chez un huissier. On doit toujours faire un règlement de jeu concours et on doit expliquer les chances de gain, les modalités de participation, le sacrifice financier éventuel, qui est généralement associé à un autre produit. Ensuite, ça doit être essentiellement le critère essentiel, c'est la loyauté. Donc moi, je pense que déjà ce cadre-là, il pourrait s'appliquer en fait au Jeunum. Hein. C'est d'ailleurs le cadre qui est un petit peu celui qui est mis en place, hein, au niveau du cadrage contractuel par les juristes et les avocats quand on est amené à accompagner ce type d'opérateurs, que ce soit des marques de luxe ou effectivement des jeux vidéo complètement axés sur le play to earn. Et donc ça, voilà, moi je pense que là, il y avait déjà un cadre. Et à côté de ça, bien sûr, on a les acteurs traditionnels, hein, du monde du jeu de hasard, avec des monopoles d'État et des casinos. Et eux, effectivement, souhaitent quand même conserver ce monopole, même s'il a été quand même un petit peu atteint par l'ouverture au niveau du marché en ligne avec des nouveaux acteurs.
Ouais.
Et là, on voit que ça va aller encore un petit peu plus loin au niveau des casinos en ligne. Il y a un vrai re-questionnement autour de ces aspects-là, avec aussi les questions de métavers, le fait de pouvoir finalement accéder à ce type de jeu dans des univers virtuels immersifs. Et donc ça, c'est peut-être un peu hors champ, mais c'est aussi des questions qui se posent indirectement dans cette loi.
En tout cas, on a vu que quand on a entendu parler de cette loi récemment, il y a un petit peu plus d'une semaine, je crois, 2 semaines. Les casinos, notamment ce qu'on appelle les casinos terrestres, se sont pas mal insurgés de ne pas avoir été invités aux discussions. Parce que justement, d'après eux, le régime qui est en train d'être mis en place est un régime qui est assez allégé et qui permettrait éventuellement de développer des nouveaux types de jeux en ligne plus facilement, qui peuvent être assimilés à des jeux d'argent selon eux, et qui remettraient en cause donc éventuellement leur monopole. Selon eux, en tout cas, c'est une bonne nouvelle plutôt pour les jeux Web3 et une mauvaise nouvelle pour eux.
Ils ont été, en tout cas, moi j'ai vu un petit peu ce qui pouvait se passer au niveau des discussions. Il y a eu quand même deux groupes de travail à Bercy autour de ça. Et il y a eu des casinos qui étaient impliqués dans les discussions. On a des exemples aussi de casinos comme Partouche qui travaillent sur les NFT, hein, qui ont fait des projets. Les monopoles d'État aussi ont aussi expérimenté la question, hein, que ce soit PMU ou la Française des Jeux à travers des projets un peu annexes, hein, qui ne sont pas liés à leur activité monopolistique. Hein. Et donc finalement, ils ont un petit peu vu de quoi il s'agissait et ils ont un point de vue qui, bien sûr, va pas toujours être le même que des acteurs de jeux vidéo ou des acteurs vraiment Web3. Il y a un peu trois postures. On a une posture un petit peu de monopole, on a une posture d'acteur de la crypto et on a une posture de jeux vidéo. Et les personnes vraiment qui viennent du monde des jeux vidéo comprennent pas en fait hein, qu'on applique ce type de régime qui va être quand même beaucoup plus strict que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir aujourd'hui. Les acteurs de la crypto sont quand même habitués à ça, mais leur interlocuteur, en tout cas quand on est français, c'est plutôt l'AMF. On a l'habitude plutôt d'aller voir si c'est pas un instrument financier, si on n'est pas dans un cadre qui nécessiterait de faire une ICO avec un white paper, mettre en place des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, des choses un petit peu de ce type-là qui sont quand même assez contraignantes. Voire éventuellement être PSAN si on a un marché secondaire qu'on gère nous-mêmes ou si on gère des actifs pour compte de tiers. Donc il y a quand même, c'est assez lourd hein, ce qui est déjà demandé en crypto. Et après, on a des acteurs monopolistiques qui, eux, ont aussi des contraintes importantes sur des choses qui sont complètement inhabituelles pour les autres acteurs, comme par exemple financer la lutte contre l'addiction ou des choses très particulières autour des jeux par rapport aux mineurs ou des éléments comme ça qui font leur apparition dans la réglementation sur les jeux NUM et qui sont assez délicats à mettre en place quand on n'a pas non plus l'infrastructure. Donc moi j'ai l'impression que c'est, en tout cas pour les jeux vidéo, ça risque d'être assez compliqué de mettre en place des NFT. Alors la réglementation elle est encore balbutiante, hein, on n'a pas la version non plus complètement définitive, et c'est quand même trois petits articles de rien du tout, assez flous, qui sont sujets à interprétation, même sur la qualification de jeu NUM. Hein. Ça, c'est pas encore très bien défini. Et la question de la revente aussi de ces jetons, la formule qui est retenue elle reste encore un petit peu ambiguë. On comprend hein, qu'on ne peut pas le revendre directement en fait, à l'entreprise émettrice, mais qu'on peut potentiellement revendre en fait, ces NFT sur du marché tiers, sur OpenSea ou des
C'était
structures comme ça.
justement le détail qui a fait que dans les discussions, on a été amené, je dis on, mais plutôt ceux qui régulent ont été amenés à dire un jeu Web3 de manière générale doit être dissocié d'un jeu d'argent parce que, comme tu l'évoquais tout à l'heure, il y a d'abord le sacrifice financier. Et est-ce qu'on peut considérer que quand un jeu Web3 émet des NFT qui permettent d'accéder à leur jeu, est-ce que c'est un sacrifice financier parce que ce NFT peut être vendu? Après, il y a la notion de dire oui, mais il ne faut pas que le jeu soit celui qui supporte la marketplace. En revanche, on peut laisser faire sur des marketplaces secondaires comme OpenSea. Ce qui fait que finalement, quand on réfléchit et qu'on voit un petit peu le paysage des jeux Web3, on se dit que dans la majorité des cas, on ne rentre pas donc dans la définition du jeu de hasard, jeu de argent, et plutôt dans le régime Jeux-NUMES. Et donc finalement, qu'ils ont tapé plutôt dans le mille, et que ça peut être globalement une bonne nouvelle parce que ça leur évite d'aller devoir répondre à beaucoup trop comment dire, de régulation, notamment auprès de l'ANJ, etc. Après, évidemment, tout n'est pas tout rose. Et il y a quand même certaines démarches qui devront être faites. D'ailleurs, voilà, quelles démarches, par exemple, quelles sont quand même les restrictions qui concernent les jeux Web3, notamment, tu parlais tout à l'heure de lutte anti-blanchiment, de KYC, etc. Il y a quand même quelques règles qui font que ça va un petit peu freiner leur développement quand même.
Bah, disons qu'on était déjà amené à cadrer hein, ces entreprises-là. Hein, quand on a, en tant qu'avocat, un projet qui vient nous voir avec déjà toute une tokenomie, un mode de jeu, etc., on est amené à faire, par exemple, des conditions générales de vente. On est amené à cadrer aussi les règles du jeu. Et donc à partir de là, on met en place aussi, moi j'aime bien en fait mêler justement différents champs juridiques pour couvrir ça. en prenant en compte à la fois les aspects de droit financier, justement les questions liées à la qualification du jeton, intégrer des éléments de lutte contre le blanchiment d'argent, faire en sorte aussi de prendre en compte les aspects liés à l'âge, au territoire aussi de la personne, du consommateur, et à côté de ça, prendre aussi en compte des choses qui vont relever du droit de la consommation et pas du droit financier, et tous les aspects aussi de propriété intellectuelle, parce qu'il y a souvent des questions autour de ces actifs-là, avec par exemple des créations, des marques, des logos qui sont associés aussi aux NFT. On a aussi des questions autour du droit à l'image, par exemple quand c'est des joueurs ou des stars qui sont associés à des cartes, souvent des cartes, pas toujours, mais ça arrive, donc il y a des vrais points autour de ça, et tout ça doit être quand même vraiment balisé. Et ça l'est déjà. Là, effectivement, on va un petit peu questionner le cadre, on va proposer un cadre, hein, c'est ce qui est voulu. C'est un peu un régime pilote, hein. Il me semble que c'est un régime pour 3 ans, et à l'issue en fait de cette expérimentation sur un socle qui me semble quand même assez basique, hein, des décisions seront prises sur finalement l'autorité qui sera vraiment compétente sur la question, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas si c'est l'ANJ, donc l'autorité nationale du jeu, si c'est la DGCCRF, donc qui est plutôt concernée par des questions de droit de la consommation, ou l'AMF. Vraisemblablement, ce ne sera pas l'AMF. J'ai cru comprendre que ce n'était pas du tout ce qui était souhaité, mais entre la DGCCRF et l'ANJ, à mon sens, je pense que ce serait plus cohérent que ce soit la DGCCRF, personnellement. Hein.
D'accord.
Ça limiterait les ambiguïtés. Et par ailleurs, à mon sens, on n'est pas sur des questions vraiment de paris ou de jeux de hasard. Hein. On est sur des jeux avec des cartes qu'on peut revendre, comme, je ne sais pas, les cartes Magic. C'est pas l'ANJ qui encadre la revente des cartes Magic. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, à Jussieu, il y avait des endroits où on pouvait acheter une sorte de marché de cartes Magic, et c'est du même ordre. C'est
Oui,
des
c'est une bonne
cartes et.
comparaison pour essayer de comprendre finalement les jeux qui se construisent autour de l'écosystème du Web3 grâce à la blockchain, grâce aux crypto NFT. Voilà, sont des jeux qui peuvent exister en dehors, juste qu'ils sont propulsés par cette technologie. Et comme c'est une technologie qui est rapidement monétisée grâce aux cryptos, il y a tout de suite l'enjeu économique qui est mis en avant. Tu prenais l'exemple de Magic, moi je vais prendre l'exemple de Pokémon. Les cartes Pokémon, aujourd'hui on voit qu'il y a un marché secondaire où il y a une spéculation qui est assez exceptionnelle dessus. Est-ce que Pokémon a été obligé en France de suivre un cadre réglementaire particulier d'aller voir l'ANJ pour dire attention, on fait de la spéculation, enfin il y a de la spéculation autour de notre jeu? Pas forcément. Et
Ah non.
finalement le marché secondaire existe quand même.
Absolument.
Donc c'est bien d'aller encadrer tout de suite, c'est vrai, dès le départ pour se dire on évite ces dérives-là. Mais il faut faire attention à ne pas être trop strict pour ne pas empêcher ces jeux de se développer. Et donc c'est vrai que c'est une bonne comparaison pour comprendre que finalement on n'est peut-être pas en train d'appliquer aussi les bonnes choses aux bons endroits à l'heure actuelle.
Il me semble, hein. Moi je pense qu'il y a quand même peut-être une extrapolation un peu forte, peut-être une volonté aussi de certains acteurs de garder esprit carré, c'est pas complètement impossible, hein. Et ça pourrait être aussi un peu légitime, hein, selon la perception. Et par ailleurs, il peut y avoir effectivement des questions d'addiction forte à ces jeux, des pertes financières importantes, effectivement du blanchiment d'argent. Tout ça est un vrai risque, hein. Je pense que c'est important de le souligner. Après, il existe aussi dans d'autres domaines, et il n'est pas encadré de cette manière-là. Donc c'est vrai que ça va quand même être un coût assez important pour des acteurs qui sont émergents. Par exemple, la question du KYC. Un KYC à faire pour une entreprise française, par KYC, c'est 1 € à peu près. Donc, si le coût d'acquisition du client déjà nécessite en plus de rajouter 1 €, il y a des entreprises qui ne pourront pas faire ça, en fait. Et en plus, les personnes qui sont dans le Web3, elles n'aiment pas donner leur pièce d'identité à tout va. Hein. C'est pas, on est sur des opérateurs, enfin des acteurs qui commencent à peine à le faire. Certains se détournent même de plateformes d'échange quand elles commencent à mettre en place des KYC. Donc, on est sur des opérateurs qui souhaitent garder un certain pseudonymat et considèrent que leur action sur Internet doit être quand même un petit peu protégée. Donc, ils sont aussi vraiment attachés à leur vie privée. Et donc, leur imposer ça, alors que des acteurs dans d'autres pays ne vont pas du tout proposer ça, ça risque d'être aussi assez délicat pour les entreprises qui sont structurées en France. Alors normalement, hein, les autres opérateurs à l'étranger devraient proposer aux consommateurs français les mêmes règles, mais on sait très bien que c'est rarement le cas. Par exemple, quand les sites qui proposaient des paris en ligne, là, pour le coup, vraiment au niveau de ce qui est relevé du monopole, ben, ils le proposaient aussi à des Français de manière un peu illégale, et dans les conditions générales de vente, ce qui était intégré, c'est finalement vous déclarer en tant que consommateur que vous n'êtes pas dans tel ou tel pays, et si vous faites une faute de déclaration, ben, ça vous protège plus, entre guillemets, quoi. On peut mettre du géoblocage, hein, bien sûr, on peut rentrer dans un niveau de finesse, mais on voit bien que c'est rarement appliqué, en fait. Ce n'est pas des vérifications qui sont faites. Et quand bien même ce serait fait, il faut aller obtenir l'exécution de la décision de justice à l'étranger. Et il y a des pays qui sont plus ou moins, on va dire, coopératifs à ce niveau-là. Donc, le risque, hein, fondamental, il est là pour l'écosystème français. C'est qu'il y a un déplacement des acteurs à l'étranger ou une mort de certains acteurs en France qui essaient de suivre les règles. Voilà.
Et parmi les startups avec qui tu travailles, comment est-ce qu'elles perçoivent notamment cette obligation de devoir faire des KYC, alors que justement, comme tu l'expliques, dans l'écosystème crypto, globalement, les utilisateurs n'ont pas trop envie de le faire, en plus ça coûte cher, à leur stade de développement qui doit être encore, j'imagine, assez jeune, parce que c'est un domaine jeune, comment est-ce qu'elles le perçoivent, cette obligation ?
Bah, c'est très mal vécu, hein. Soyons clairs, c'est très mal vécu. La question qui pourrait se poser, c'est peut-être éventuellement d'avoir des seuils, c'est-à-dire que ce soit pas obligatoire à partir d'un, que ce soit obligatoire qu'à partir d'un certain montant d'achat, par exemple de NFT ou pour certains types de jeux. Là, ce qui est un petit peu proposé, c'est de dire bon bah, voilà, vous pouvez avoir un mode gratuit et dans celui-là, vous faites un peu comme vous voulez puisque vous êtes un peu comme dans du jeu vidéo classique. Mais dès lors qu'il y a un NFT qui est impliqué, que vous l'avez acheté, qu'il n'a pas été airdroppé, ou qu'il y a des cryptoactifs qui peuvent être gagnés dans le cadre du jeu, on va être quand même sur des logiques vraiment un peu plus lourdes en termes de vérification de l'identité, pour savoir si la personne est mineure, si elle est dans tel ou tel pays, pour pouvoir aussi lui appliquer une fiscalité. À ce niveau-là, pas inintéressant. Ça clarifie au moins. Et après, pour les questions de lutte contre le blanchiment d'argent, qui là est quand même un vrai enjeu, hein, global, hein, et qui se justifie quand même dans ce secteur-là, bien sûr. Ouais. Ouais.
Tu parlais tout à l'heure un petit peu de ce qui se passe à l'étranger. Là, on parle d'un régime qui va viser évidemment la France. Des pays comme les États-Unis, hein, on apprécie un petit peu regarder ce qui se passe là-bas, où c'est vraiment une manière de fonctionner qui est assez différente. On voit même de manière générale dans la réglementation juste du marché crypto. Mais sur cet aspect-là des jeux Web3, comment ça se passe là-bas? Est-ce que c'est plutôt on laisse le champ libre aux startups, ou est-ce que ça ressemble un peu plus à ce qui se passe en France?
Bah, disons qu'en France, on a quand même la particularité d'avoir vraiment des monopoles d'État autour des jeux de hasard. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays étrangers du tout. Par exemple, en Angleterre, on peut parier sur tout et n'importe quoi et ce n'est pas des monopoles d'État qui gèrent ça. Aux États-Unis, il y a une beaucoup plus grande flexibilité pour créer des casinos en ligne et en présentiel. Enfin, c'est quand même encadré, mais ça l'est beaucoup moins. Donc on est dans un pays qui est quand même vraiment très, très crispé par rapport à ça. On va retrouver aussi en Asie des réglementations très très différentes. Parfois c'est complètement interdit, mais dans d'autres cas c'est absolument ouvert à tous. Toute entreprise presque peut s'implanter dans ce secteur-là sans cadre légal particulièrement délicat à mettre en œuvre. C'est un peu la continuité aussi de la posture de la France par rapport au pari, qui reste quelque chose qui doit être en tout cas attaché à l'État et qui doit apporter du revenu à l'État. Et je pense que aussi le fond de cette réglementation, on ne va pas se mentir, hein, ça c'est la première pierre pour pouvoir définir une fiscalité dédiée. Mmh. Voilà. Et c'est pourquoi pas, hein. Mais si les acteurs sont morts, il n'y a plus rien à prendre.
C'est plutôt bien dit. J'allais justement te demander ça, te dire que si on laisse les choses se développer aux États-Unis, en Asie potentiellement, on voit à quel point ça va vite dans l'écosystème des cryptos. Au niveau des jeux Web3, de tout ce qui touche au NFT, ça va extrêmement vite également. Si on restreint trop le développement en France, comme tu disais tout à l'heure, on va voir ces acteurs partir à l'étranger. Et finalement, quand le régime va sortir, il sera presque obsolète parce qu'il n'y aura plus d'acteurs en France, ou en tout cas, ils auront migré vers autre chose pour essayer de se renouveler, etc. Et donc, il y a un risque quand même, je pense, que la France passe à côté de quelque chose en mettant en place, encore une fois, un cadre qui est plus strict que ce qui se passe à l'étranger. Je ne sais pas ton avis là-dessus.
Oui, c'est l'histoire de la réglementation des innovations d'usage dans le numérique en France. J'ai l'impression qu'on tout va dans ce sens-là, quoi. Et après, l'Europe fait un petit peu pareil, donc on est deux fois en fait encadré de manière rigide, alors qu'on a quand même, on va dire, une base juridique très très intéressante en France qui nous permet de construire en fait rien qu'à partir de l'existant un cadre contractuel d'encadrement de la responsabilité qui est viable en fait. On n'a pas forcément besoin en fait de ce surplus de réglementation. Alors je sais que certains acteurs aient besoin de ça pour lever le flou et c'est sûr. Mais là on va pas avoir par exemple de rescrits dédiés qui vont nous permettre d'avoir une autorité en face pour vérifier si on est à peu près dans les clous. Bon peut-être que aussi hein, parmi les éléments qui sont mis en place, hein, je sais pas, hein, potentiellement, hein, au-delà de la question fiscale, ça va être aussi peut-être un moyen de faire un peu comme un visa jaune humain. Alors, les entreprises qui auront le visa, après avoir montré qu'elles avaient de la lutte contre le blanchiment d'argent dans leur dispositif, vont être amenées à peut-être obtenir un agrément dédié. Mais ça, c'est des lourdeurs hein, quand même, mais c'est aussi une période, bon, on l'a vu aussi pour les PSAN, hein, c'est des périodes pendant lesquelles elles sont un petit peu hésitantes pour communiquer, ça leur crée des vraies lourdeurs par rapport à l'étranger. Après, il y a aussi des acteurs qui viennent s'implanter parce qu'il y a un cadre et que ça sécurise. Donc, bon, on ne peut pas anticiper non plus tout ça, mais bon, globalement, on s'est quand même aperçu que ces cadres réglementaires étaient quand même déjà souvent en décalage avec l'évolution rapide des usages. Par exemple, on va prendre un cas, l'usage des les scolars. Je ne sais pas si tu te souviens ce que c'était les scolars.
Ça me dit quelque chose.
C'est, dans les play-to-earn, ouais. C'est la manière de prêter en fait, un NFT à quelqu'un qui va le faire fructifier en jouant en fait, toute la journée. Souvent, c'était une personne dans un pays riche, bourrée de NFT, qui prêtait ça à quelqu'un qui était dans un pays assez pauvre et qui allait obtenir plus que
les Smurfs,
le salaire
moyen. Les Smurfs.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est une pratique qui, je trouve, assez problématique, mais qui existe moins aujourd'hui. Et si on avait fait tout un cadre réglementaire sur ça, bon, y aurait eu beaucoup de pertes de temps. Et finalement, aujourd'hui, on ne saurait même pas à quoi appliquer ça, puisque ça ne correspond pas aux usages. Donc la question, c'est celle du rythme aussi de la réglementation, de sa pérennisation et aussi de l'idée de protection des consommateurs et dynamisation des entreprises. Et ça passe quand même par peut-être des suivis qui peuvent être plus proches sur le modèle un peu de bac à sable. Là, c'est un peu un régime pilote, donc peut-être qu'il y aura des interlocuteurs, je l'espère. Mais il faut qu'il y ait des interlocuteurs plus que des cadres réglementaires figés. Et le problème, c'est que finalement, les interlocuteurs, quand il n'y a pas de cadre réglementaire figé, ils ne savent pas non plus quoi répondre. Parce que eux, ça s'arrête un petit peu à la doctrine de leur autorité. Parfois, vont avoir des points de vue qui vont être très différents d'un chargé de dossier à un autre. Donc, ça crée aussi de la confusion. Mais voilà. Donc après, les usages aussi se font avec les entreprises, les avocats qui les accompagnent, les juristes d'entreprise, les DPO. Et on arrive à trouver des choses qui sont assez, assez solides. Hein. Enfin, on n'a pas toujours besoin non plus de réinventer la roue réglementaire à chaque...
Et tu as fait la comparaison un petit peu avec le régime PSAN et de ce qui se passe en France. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des acteurs majeurs de l'écosystème crypto. On peut en citer plein. Je parle notamment des plateformes d'échange de crypto, Binance, etc., qui sont venus s'installer en France parce que le cadre était bien strict, bien défini. Au moins, ils savaient ce qui les attendait. Et puis aussi parce qu'avec MiCA, c'est une certaine porte d'entrée vers l'Europe. On peut dire là qu'on est au tout départ de ce régime pour les jeux Web3. Et on peut s'imaginer qu'à l'avenir, il pourrait se passer la même chose, c'est-à-dire que tous les grands acteurs du monde des jeux Web3, qui sont encore aujourd'hui que des petits acteurs, pourront in fine venir s'implanter en France. C'est une bonne nouvelle, très bien. Néanmoins, on n'en est qu'au départ, ce qui fait que ces petits acteurs, ils vont aller se développer ailleurs ou... On les embête moins, on les laisse se développer, ils vont grandir, et une fois qu'ils sont grands, ils viendront en France, mais ce ne seront pas des acteurs français. En France, j'ai un peu l'impression que mettre en place ce régime-là, ça va juste emmener les autres ailleurs, et finalement, les empêcher de grandir ici, chez nous, en France, parce que c'est trop restrictif, et à la rigueur, ils reviendront plus tard profiter du cadre qui est en train de se construire. Donc, moi, je le vois comme plutôt positif, quand même, sur certains aspects, le fait que les acteurs actuels ont été écoutés. On n'a pas mélangé les NFT bêtement en disant NFT c'est de la spéculation, hop on place ça dans les jeux d'argent et basta, et là on termine tout développement, en tout cas on détruit tout ce qui pourrait se placer d'intéressant dans ce domaine. Il y a quand même des points positifs, néanmoins j'ai peur qu'on essaye de tout réglementer trop tout le temps et que ça puisse empêcher des petites startups sympas de pousser en France chez nous et que ça laisse finalement la place qu'aux gros qui sont déjà justement en place. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais un élément là-dessus à ajouter, sinon je vais te poser d'autres questions sur
D'accord.
notamment comment ça se passe quand on est utilisateur français
Ouais.
et qu'on est dans ce monde où finalement tout se développe aussi à l'international et grâce à Internet et grâce aussi au Web3, au crypto, on peut vraiment aller se connecter à quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, un jeu qui se développe à l'étranger. Parfois, on n'est même pas au courant de où se développe le jeu Web3 avec lequel on interagit, parce qu'on interagit avec et point, c'est ça qui nous intéresse. Si demain on a un problème avec un jeu Web3 qui nous a fait perdre l'ensemble de nos cryptos, comment est-ce que ça se passe? Le cadre réglementaire français ne nous soutient pas dans ce cas-là, finalement.
Alors quand même, si, il y a quand même un vrai intérêt pour le consommateur.
D'accord.
Hein. C'est-à-dire que, par exemple, ça, c'est valable aussi pour les projets de collectibles et des choses comme ça. Hein. C'est-à-dire que dès lors que, généralement, il n'y a pas toujours de CGV hein, sur des projets NFT. Pour les jeux vidéo, souvent les budgets sont plus importants, donc il y a quand même un vrai travail sur les CGV, mais on est rarement sur des entreprises colossales, ce n'est pas des Amazon avec des CGV adaptés à chaque cadre juridique en fonction de la typologie de consommateur. On va avoir des CGV un peu globales qui sont faites un petit peu dans le droit du pays dont est issue l'entreprise qui propose le jeu. Et on a quand même en France ce qu'on appelle des lois de police. C'est des lois en fait qui sont, enfin c'est des textes réglementaires, des dispositions qui sont obligatoires. Et donc qui vont s'imposer même si elles ne figurent pas dans le texte ou que les CGV sont en contraire à ça. Donc ça permet de faire sauter des clauses qu'on appelle des clauses abusives par exemple. Et donc, par exemple, un cas assez typique, c'est les clauses d'arbitrage imposées aux consommateurs. Bon, ça, c'est souvent considéré comme abusif parce que l'arbitrage, ça coûte très cher. Et du coup, le consommateur peut ne pas avoir accès à ça et lui peut vouloir simplement, en fait, aller devant la juridiction qui est territorialement compétente pour lui, à côté de chez lui, quoi. Et donc ça, c'est typiquement possible donc d'attaquer une entreprise qui aurait fait des CGV avec des clauses abusives chez soi. Après, encore faut-il qu'on arrive, même si elle perd, à récupérer les fonds en tant que consommateur. Parce qu'elle peut être à l'étranger, dans un paradis fiscal, peu coopératif. Et même si on a gagné en France, normalement, hein, ça va être exequaturé, parce qu'il y a quand même des conventions internationales qui permettent ça. Mais ça, déjà, c'est des process qui sont un peu longs. Souvent, ces entreprises-là qui font des choses un petit peu border, bah, elles ont une durée de vie qui est assez courte. Mais les gens partent soit avec la caisse, soit elles font faillite. Hein. Il y a quand même aussi beaucoup de structures comme ça. Et celles qui vont vraiment vers la réglementation, celles qui structurent, et finalement, c'est pas forcément celles qu'on va aller attaquer. Parce que même par rapport à l'écosystème, c'est celles qui ont été les plus correctes et loyales dès le début.
Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet sur la loi Sorare. Je ne sais pas si tu avais d'autres éléments à ajouter, mais je pense que on a balayé un petit peu tout ça. Ça nous a permis de comprendre aussi dans quel cadre ça s'inscrit et qu'est-ce que ça peut impliquer pour les jeux Web3 et particulièrement pour les sociétés en France qui développent ce genre de jeux. On sait que c'est un domaine qui intéresse pas mal les gens, pas mal la communauté, notamment la communauté crypto, si on l'a vu sur certaines de nos vidéos qui portaient sur ce sujet-là. Donc c'était intéressant de pouvoir discuter de ça avec toi. Merci, merci pour ton expertise, merci pour ton temps et puis voilà, je te souhaite une bonne journée.
Merci pour
Salut.
l'invitation. Salut.